Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Au fil des bobines, l'émission de Cinéphile sur Tudosef 91.1 FM. Aujourd'hui une émission un peu spéciale, déjà on va parler d'un seul film, on va parler du film Une vie démente de Anne Siro et de Raphaël Balboni. C'est un film qu'on va présenter lors d'un ciné-débat qui aura lieu le 24 octobre à 20h30 au cinéma Les Lobbies. Là où je vous dis que c'est une émission un peu spéciale, on va évidemment parler de ciné, on va aussi parler de cinéma, parler de films, parce que voilà, c'est une émission qui est là pour ça, mais on va aussi parler d'autre chose, on va parler plus profondément du sujet du film, puisque lors de ce ciné-débat, il y aura du coup un débat sur le sujet du film, et qu'est-ce que le sujet du film qui a une vie démente. Donc c'est un film qui est sorti en 2021, que l'association Cinéphile avait déjà pu présenter en présence de Raphaël Balboni, un des réalisateurs. Et donc voilà, c'est un film qui traite d'une maladie en tout cas neurodégénérative au sein d'une famille. C'est un couple qui essaye d'avoir un enfant et qui va se rendre compte que la maman d'un des deux, en tout cas à l'occurrence du monsieur, est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et le film se pose beaucoup sur la question des aidants et sur ce que c'est qu'en fait d'accompagner une personne de sa famille qui est atteinte d'une de ces maladies.
C'est bien de faire l'exercice.
Oh maman.
Pour faire un enfant, faut faire l'exercice.
Mais non, mais...
Maman, c'est une place...
Suzanne, c'est une place handicapée.
Qu'est-ce que t'as en ce moment? C'est quoi le problème, maman?
Elle est déclarée en retraite de toute activité depuis 2 ans.
Mais qui a fait ça? C'est ouais. Fort.
Mais c'est vous, c'est madame qui a fait ça.
C'est madame.
Canard, belette, lapin, renard.
Fourdi.
Mais madame, vous êtes dans ma voiture?
On peut pas te laisser toute seule.
Je suis bien toute seule.
On peut pas te laisser toute seule.
Laisse tranquille toute seule.
La maladie, elle va pas se stabiliser, ça tu sais. Hein.
Mais on va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel.
Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel.
C'est magnifique, les couleurs. Je vous félicite, quel magnifique travail.
Si vous avez besoin que quelqu'un vienne l'aider et qu'elle refuse de voir qu'elle est malade...
C'est bien, ouais.
Ça vous plaît?
Ouais.
C'est comme si parce que ta mère était malade, on n'avait pas le droit de s'amuser, qu'on n'avait pas le droit de vivre, en fait.
Moi, j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle.
Non, là-bas. Non. Voilà.
Donc on va pouvoir parler un peu plus profondément du sujet tout en faisant des parallèles avec le film. Voilà, on va voir comment l'émission va se passer. C'est un peu nouveau pour l'émission, mais je trouve ça chouette d'explorer d'autres choses. Mais du coup, je vais présenter mes invités qui sont en face de moi. J'ai avec moi toute l'équipe, en fait, une partie de l'équipe du CIAS, du Blaisois. Donc j'ai avec moi Stéphanie, Marie-Agnès et Karine. Alors je vous laisse un peu vous présenter, savoir qui vous êtes dans l'association. Je voulais pas le faire à votre place, donc voilà, je vous laisse vous présenter.
Alors, je suis Stéphanie, je suis la directrice du Centre intercommunal d'action sociale du Blaisois, donc qui est un établissement public administratif qui gère l'action sociale d'intérêt communautaire, et donc notamment des politiques publiques à destination des personnes âgées.
Donc, Marie-Agnès Ferré, je suis élue à Blois et vice-présidente du CIAS du Blaisois, CIAS qui couvre en fait les 43 communes d'Aglopolis. Quand on parle d'Aglopolis, c'est vraiment tout ce territoire du Blaisois. Et c'est important de rappeler qu'on est en milieu urbain, évidemment, mais beaucoup aussi en rural. Mmh.
Karine Deluven, je suis responsable du service aide aux aidants, qui comprend un accueil de jour plutôt à destination des personnes ayant une maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés, et d'une plateforme d'accompagnement et de répit de Blois.
Très bien. Alors, comme je vous ai dit, on va parler un peu du sujet, mais j'aimerais revenir un peu sur le film d'abord, un peu, pour dire que voilà, Une vie démente, en fait, on en parlait un peu en off, juste avant de commencer, justement. Il y a eu pas mal de films qui ont traité du sujet des aidants, du sujet de personnes qui ont des handicaps, une maladie en tout cas assez lourde, et sur lequel on montre un accompagnement. Mais voilà, on avait cité un film comme Amour, par exemple, de Michael Haneke. Vous m'avez cité tout à l'heure. Moi, je pense à Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman aussi. The Father aussi récemment de Florian Zeller, mais ce sont des films qui sont pas forcément très joyeux, qui abordent le sujet de façon très frontale et de façon des fois très juste. Hein. Moi, The Father, c'est un film que j'aime beaucoup. Et Une vie démente est un film qui aborde les choses de façon un peu différente. Voilà, j'aimerais bien si vous déjà avoir un peu votre avis sur qu'est-ce que vous pensez un peu des films qui traitent de ce sujet-là justement. Et après, je reviendrai à Karine qui a pu voir le film sur ce qui qu'est-ce qui dans Une vie démente. T'as semblé un peu différent peut-être de ce qui pouvait être abordé sur le sujet, vous qui connaissez un peu le sujet plus assez exactement.
En fait, tous ces films que vous venez de citer, c'est vrai que certains sont vraiment magnifiques, mais on passe un moment cinématographique de qualité, mais on ressort de la salle avec un peu le moral dans les chaussettes. Il faut quand même le reconnaître. C'est un peu plombant et surtout pour chacun et chacune. Hein, on connaît tous des situations de personnes qui connaissent ces maladies et ça nous donne une image qui est vraiment très triste. Or, la vie, c'est des moments de joie, c'est des moments de tristesse. Et on a beau être atteint de ces maladies Alzheimer ou apparentées, y a des tas de moments de plaisir, de rire, d'échange, qui font que les choses sont tenables aussi. Et qu'on peut partager ces moments de joie avec les personnes atteintes, et heureusement.
Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Et puis justement, dans Une vie démente, il y a un peu tout ça, qui quand même, dans ce que tu dis, c'est un film qui montre plein de moments de vie. C'est-à-dire que le film ne s'arrête pas. Le film a des phrases assez jolies, je trouve, justement, sur le fait qu'à un moment donné, il prend sa mère en photo et lui, il n'a pas envie de voir. Le mari n'a pas envie de voir cette photo parce qu'il dit, je ne reconnais plus ma mère, mais sa femme à côté dit, mais si, c'est un moment de joie, en fait. Il y a toute une chose qui revient sur le film, sur justement le fait d'accepter tous les moments en fait, de vie qu'il peut vivre avec sa mère, même si sur le moment c'est un peu dur. Je ne sais pas ce que tu as pensé du film là-dessus, Karine.
C'est tout à fait ça. En fait, pour avoir vu d'autres films, celui-ci traite le sujet avec beaucoup de légèreté. Une grande réalité quand même, puisqu'on voit toutes les difficultés et les étapes par lesquelles le couple va traverser. Et du coup, c'est une manière assez jolie et imagée de montrer le quotidien de toutes ces personnes qui accompagnent un proche ayant une maladie neurodégénérative ou toute autre maladie, en fait.
Mmh. Parce que, voilà, bon, je vais essayer de poser un peu plus des questions, du coup, sur votre quotidien, dans votre métier. Les protagonistes du film vont, à un moment donné, vers des demandes d'aide, en fait. Et en fait, j'aimerais savoir, en fait, comment arrivent un peu les familles qui peuvent venir vous voir sur ce sujet. Comment elles vivent en fait la maladie de leurs proches en fait. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'ils sont assez désemparés au départ? Comment en fait vous essayez d'y apporter votre aide en fait? C'est peut-être une question très large, mais voilà, c'est d'y répondre le plus synthétiquement possible, mais voilà, c'est pour essayer de comprendre un peu le contexte de votre accompagnement.
Je pense que c'est toute la thématique du mois des aidants en avant, puisque la thématique c'est se reconnaître aidant, et c'est quand même aujourd'hui toute la difficulté des aidants à se reconnaître dans ce rôle d'aidant et du coup à accepter les différents dispositifs d'accompagnement que Karine développera, mais qu'on met en place pour accompagner les aidants.
Et moi, j'ajouterais, avant de se reconnaître aidant, il faut aussi reconnaître la maladie de son proche. Et c'est tout ce parcours-là qui est parsemé d'étapes, d'embûches, puisque souvent, les maladies neurodégénératives, elles vont faire l'objet... on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, mais le temps, effectivement, qu'on accepte d'aller consulter, qu'on ait un diagnostic. Et à ce moment-là, ça va commencer, ce parcours, avec effectivement un parcours à la fois médical, social, médico-social. Et là-dessus, il y a quand même un écosystème qui est assez bienveillant avec les malades et leurs accompagnants. Mmh. Et c'est dans cet écosystème-là, effectivement, qu'existent les services, mais il y en a des tas d'autres, hein, à commencer par des services spécialisés hospitaliers, par des médecins spécialistes. Enfin, vous avez vraiment tout un panel. La difficulté, c'est de s'y retrouver, c'est de trouver son chemin et de trouver la solution la plus adaptée à la situation qu'on est en train de traverser.
Après, nous, au quotidien, on accompagne donc des aidants qui sont tous particuliers. Enfin, il y a une singularité dans chaque situation et la difficulté, c'est de pouvoir les accompagner sur le long terme. Alors, on a des aidants qui vont arriver, qui ont déjà tout installé, tout est carré à la maison. Il y a déjà les interventions qui sont en place. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent comme première porte d'entrée où là, on doit les orienter, on doit les guider, on doit leur donner des numéros de professionnels vers qui aller pour améliorer leur quotidien, puisque on a souvent des aidants qui, quand ils nous appellent ou quand ils poussent notre porte, sont arrivés à un niveau d'épuisement qui est si important que c'est compliqué pour eux, ne serait-ce que de prendre leur téléphone et d'appeler, de remplir un papier, ça devient quelque chose d'insurmontable, qui leur demande une énergie folle dont ils n'ont plus la possession au moment présent. Du coup, nous, sur la plateforme d'accompagnement et de répit, on est présent pour les écouter, les orienter, leur donner des contacts de professionnels. On travaille beaucoup en partenariat avec les médecins, le Vivre Autonome 41, avec des spécialistes, des services d'aide à domicile. On a au sein du CIS aussi la possibilité d'accompagner les aidants et leurs aider avec des aides à domicile, des aides-soignants aussi qui interviennent à domicile. Donc on a toute une multitude de professionnels autour de nous qui peuvent intervenir dans le quotidien de toutes ces personnes. Après, on a d'autres missions que l'on développe, des sorties mensuelles. C'est un temps où on accompagne les proches sur des sorties, des moments un peu ludiques, un peu légers, où les aidants peuvent se retrouver entre eux, échanger, discuter. Ils peuvent venir aussi accompagner de leurs proches, ce qui peut également leur permettre de se rendre compte que finalement, ils peuvent encore faire des choses ensemble. Puisque la maladie, on le sait, isole, hein, isole de l'extérieur, isole du voisinage, isole des amis, et le fait de retrouver aussi un cercle autour d'eux, ça les rassure et ça leur permet aussi d'avancer. On propose également du répit à domicile, c'est une manière de soulager les dents, puisqu'on fait intervenir un professionnel au domicile de la personne pour que les dents puissent sortir, aller à des rendez-vous bien-être, coiffeur, prendre du temps pour lui. Et également, on propose le Café des aidants. Le Café des aidants, c'est un lieu de rencontre, mmh. également entre aidants, avec une thématique bien déterminée avant le Café des aidants. Et donc ça, c'est tous les premiers vendredis de chaque mois. Sur deux lieux différents, un premier lieu sur Molineuf, la lettre T, et un deuxième lieu sur Blois-Vienne, Liberté.
D'accord. Et moi aussi, je voulais du coup un peu poser une question, c'est que dans le film, il y a, alors j'avais pas, pour essayer de parler du film, et du coup, merci d'avoir une large présentation de ce que vous pouvez proposer au CIS du Blaisois. Et mais alors, dans le film, il y a, comme je l'expliquais, on est dans un couple qui est, au tout départ, le film s'ouvre sur ce couple qui essaye d'avoir un enfant. Et à un moment donné, cette question-là est un peu mise en parenthèse, et j'aimerais savoir si c'est quelque chose d'assez commun, et comment vous essayez de donner votre regard là-dessus quand peut-être une famille décide de mettre un peu sa vie en parenthèse quand vient en fait leur travail d'aidant en fait.
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement la population qui va être accompagnée par le CIS va plutôt être une population qui n'est plus en situation d'emploi, parce que les choses se passent en journée et que c'est pas évident de prendre du temps. Mais cependant, le constat qui est fait au plan national, c'est que 70% des aidants sont des personnes en situation d'emploi. Et c'est aussi comment le monde du travail, en fait, s'adapte à cette situation, donne du temps aux salariés. Il y a différents congés qui sont possibles, mais ça reste quand même une grande difficulté. Et il faut aussi penser que dans la population des aidants, on a beaucoup d'enfants. C'est une population qui a souvent été un peu oubliée, mais des enfants qui vont prendre soin de leurs parents, qui ont des pathologies particulières. Si on n'est que sur les maladies neurodégénératives, ce qui est un peu le cas quand même dans ce qu'on offre au niveau du CIAS, on est chez des gens plutôt âgés, en tout cas qui ont dépassé l'âge de la retraite, hein, ce qui facilite, entre guillemets, la disponibilité en journée. Parce que le propre, justement, de l'accompagnement, c'est qu'on est très peu disponible, puisqu'on doit tout le temps être aux côtés de son proche aidé.
Et moi, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, mais du coup, pour revenir un peu sur le projet, pardon, est-ce que vous avez, dans votre expérience, aussi des cas où... Où les projets de vie s'arrêtent en fait. Est-ce que c'est votre rôle aussi d'apporter un conseil sur la vie en fait des aidants au-delà de leur aide auprès de leurs proches en fait, d'essayer de peut-être pas s'oublier, mais où est-ce que c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, disons.
C'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Après, des situations, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, elles sont toutes uniques, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'aidants qui ont mis leur vie personnelle entre parenthèses. Et du coup, l'accompagnement que l'on essaie de faire, nous, auprès de nos aidants, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas que aidants, ils sont aussi parents, maris, maman, femme, ils ne sont pas définis que par leur rôle d'aidant, et c'est pour ça que le répit est important, puisque ça leur permet aussi de se dire, il n'y a pas que moi qui suis compétente dans la situation de mon proche, et il y en a d'autres qui peuvent les accompagner, alors on ne va pas dire aussi bien, puisque... parce que personne ne peut mieux faire que les aidants quand on les écoute. Effectivement, ils ont une place tellement importante. C'est quand même le repère de la personne aidée. C'est souvent la seule relation qu'ils ont avec l'extérieur pour certains. Et du coup, c'est compliqué de leur laisser, de les enlever de la prise en charge de la situation au quotidien. On a mis en place aussi le café des aidants pour leur montrer qu'il y avait leur rôle d'aidant, mais il y avait aussi l'après. Et du coup, il faut aussi les accompagner. On a depuis très récemment mis en place la formation des aidants pour également les aider à comprendre. Alors, ce sera bientôt... plus une dénomination formation des aidants, mais plutôt des ateliers comprendre pour agir, ce qui montre que quand on comprend ce que vit notre proche, on peut agir d'une manière un peu différente de ce qu'on pourrait mettre en place sans cette formation.
Moi, je reviendrai peut-être juste sur le mot que vous avez utilisé, parce que vous avez dit, est-ce que vous êtes là pour leur donner des conseils? Nous, en tant que professionnels, je ne suis pas sûre qu'on soit là pour leur donner des conseils. On est là pour les accompagner, pour les aider dans leur cheminement. Et chaque personne a son propre cheminement qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de sa situation propre, personnelle, et de la situation de la personne qui est aidée. Et on est là vraiment pour accompagner ce cheminement, donner des clés qui sont des clés de compréhension. Et c'est vrai que l'ensemble des actions que l'on a mis en place dans le cadre de la Journée nationale des aidants, qui au niveau du CIS de Blaisois dure à peu près un mois, sur des débats théâtrales, sur des conférences, on a des aidants qui sont accompagnés là depuis déjà de nombreuses années au niveau de la plateforme d'accompagnement et de répit, et qui pour autant, avec ces différentes manifestations, ouvre en fait de nouveaux champs au fur et à mesure et arrive à se décaler un tout petit peu pour voir les choses différemment. Voilà, donc c'est vraiment ça, on construit, enfin, au fur et à mesure, on les aide à construire un cheminement. Donc c'est ça en fait notre travail.
Très bien, d'accord. Bah, merci de m'avoir repris du coup sur ce mot-là. Non, mais c'est normal, merci. Et alors justement, j'aimerais un peu, parce que moi personnellement, avant que vraiment que je travaille un peu sur ce sujet-là, et pourtant ayant connu dans ma vie personnelle quelque chose de similaire en fait au rôle d'aidant, et aussi dans le film, et le mot aidant n'est pas prononcé justement, est-ce que les personnes concernées se rendent compte en fait que leur nom a un rôle en fait et que le mot aidant moi m'avait assez interpellé. J'aimerais bien que d'essayer de discuter un peu sur ce terme là. Est-ce que les personnes en question se reconnaissent dans ce terme en fait, aidant? C'est une question qui m'avait interpellé.
Je pense que ça fait partie de la prise de conscience et de l'accompagnement parce que les aidants, ceux que nous reconnaissons comme aidants, ils vont dire attendez, c'est normal ce que je fais. C'est mon époux, c'est mon épouse, c'est mon fils, ma fille, mon père, ma mère. C'est normal. Ça fait partie de la vie de famille. Ça fait partie de mon rôle. Je ne vois pas pourquoi vous m'appelez de cette façon-là. Mais je pense que déjà, le fait de faire ce type de manifestation, évidemment, ça vulgarise le terme. Et puis, je crois que de plus en plus, dans les vies qui sont les nôtres aujourd'hui, avec géographiquement des gens qui sont aussi séparés, solidarité de proximité qui sont moins faciles tout de même, les familles elles vivent plus dans le même village, c'est vraiment un rôle dont on se rend compte, c'est-à-dire de se dire mais si effectivement dans ce couple madame ne prenait pas ce rôle d'aidant, clairement le monsieur serait hospitalisé. Quand on se projette, quand on réfléchit à comment ça pourrait fonctionner si effectivement il n'y avait pas cette aide de proximité qui était apportée, là on se dit ah oui quand même. Et c'est effectivement naturel, ça fait partie des obligations de tout un chacun, dans notre voisinage aussi, j'imagine. Les uns et les autres, on va aider quelqu'un qui est plus en difficulté. Et peut-être que nos modes de vie, un peu plus trépidants qu'autrefois, font qu'effectivement, on a besoin d'être particulièrement soutenus là-dessus, mais aussi parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on a effectivement l'apparition de maladies qu'on connaissait assez peu autrefois. Il y a des prises de conscience et qui sont progressives. Mais se dire qu'on est aidant, c'est là aussi, c'est un cheminement.
Oui, et puis après, le mot aidant, il est apparu dans la loi très récemment, en 2019. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. Après, c'est aussi une terminologie, entre guillemets, un peu, parfois juridique. Le mot aidant qui permet d'accéder à des droits, des congés proches aidants, à des prestations, même si ce sont des prestations qui ne sont pas forcément beaucoup, beaucoup utilisées. On a en fait, derrière ce mot, cette notion un peu de juridique, de définition, de reconnaissance qui permet d'accéder à des prestations. Et potentiellement, les personnes qui sont accompagnées par la plateforme d'accompagnement et de répit, elles vont en effet plus se reconnaître comme mari, femme ou enfant qui sont dans de l'aidance. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent aidants? Ça reste encore, je pense, un vaste sujet.
La plupart du temps, quand ils ouvrent la porte ou qu'ils appellent, c'est parce qu'on leur a conseillé d'appeler en leur disant « mais là, ça te concerne, c'est toi qui es aidant ». Et souvent, c'est pas eux d'eux-mêmes, le terme vient pas d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui leur a soufflé l'idée que ce qu'ils font n'est pas forcément... n'est pas forcément naturel, c'est parce qu'ils sont aidants de leurs proches.
D'accord. Et alors on a parlé de plein de choses déjà sur les situations dans lesquelles peuvent intervenir les personnes qui justement frappent à votre porte comme vous dites. Mais voilà, j'aimerais si c'est possible pour vous que si vous avez parlé par exemple d'ateliers des cafés des aidants, choses comme ça, à quel moment finalement, vu que le film, j'aimerais quand même rappeler que le film apporte plein de moments de joie, justement, de choses comme ça, si vous pouvez nous donner des exemples de justement de moments où de moments de vie auxquels vous avez pu assister, sur lesquels l'accompagnement arrive en fait à se faire un peu au-delà de juste à penser qu'ils sont avec une personne malade, en fait. Voilà. Je vais avoir peut-être des exemples de choses que vous avez pu voir là-dessus, si c'est possible pour vous.
Nous, c'est, je dirais que c'est surtout et principalement sur les sorties mensuelles que l'on propose. Des proches qui nous ont dit « mais on ne va plus au restaurant puisque ce n'est pas possible, on ne peut pas sortir ensemble ». Et en fait, quand on leur dit « mais venez quand même, on va être là, on va vous accompagner ». Et finalement, nous disent quelques semaines plus tard, on y est retourné tous les deux parce que finalement, on s'est aperçu que c'était quelque chose qu'on appréciait beaucoup et qu'on ne faisait plus. Et finalement, ce sont des petits bonheurs simples, mais qui rendent leur quotidien beaucoup plus agréable à vivre. Des gens qui ne pensaient plus que leurs proches pouvaient danser. Et quand on leur montre que il y a encore la possibilité de faire ce genre de sortie, ce genre de choses, on voit le sourire, le regard, et on se dit que on a fait un bel accompagnement, en tout cas dans ces situations-là.
Moi, je ne sais pas si vous et puis moi, je ne sais, sais pas si vous voulez rajouter quelque chose du coup, mais.
Non, ça me paraît être une conclusion plutôt positive. C'est effectivement se souvenir que dans la vie, il reste toujours, toujours des moments de bonheur et des moments de bonheur partagés.
Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Je pense que, à part si vous avez peut-être un dernier... Ça me paraissait être un bon dernier mot, mais à part si vous avez un dernier mot à rajouter à cet échange. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission. Et donc, je fais un petit rappel que ce film-là, vous pourrez le découvrir, le voir ou le revoir, parce que le film a déjà 3 ans. Mais le voir, du coup, le 24 octobre au cinéma Les Lobbies à 20h30, où sera, du coup, aura une discussion en fait, qui tournera un peu autour de ce sujet que vous avez pu entendre sur cette émission. Je précise qu'il y aura également aussi un critique de cinéma qui s'appelle Baptiste Roux, qui avait écrit une très belle critique positive sur le film, qui sera là aussi pour pouvoir parler en fait des aspects très cinématographiques du film et comment en fait par l'art cinématographie on peut arriver en fait à retranscrire les éléments que vous pouvez voir au quotidien. Et voilà, comme je vous ai dit, le film n'est pas en plus naturaliste. C'est un film qui joue beaucoup sur les couleurs, joue beaucoup sur un certain onirisme et aussi sur une vraie phase d'improvisation de la part des comédiens, ce qui donne un vrai sentiment à la fois réaliste mais en même temps un sentiment aussi très très un peu imaginaire, très, très onirique comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, et donc Baptiste Roux sera là aussi pour relier un peu tout ça sur ce qu'on évidemment ce qu'on vit, mais comment en fait on peut le montrer, le retranscrire par l'art et l'émotion, ce qui nous semblait un point très intéressant à aborder lors de ce débat-là. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite à tous et à tous de très bons films et une très bonne journée. Au revoir.